Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework AR. Dans cet épisode, on va parler podcast. Ouais, voilà, ça va être un peu méta. Alors, comment faire grossir un podcast? Comment le faire découvrir? Comment se différencier? Comment accrocher les auditeurs? Comment faire en sorte qu'ils en parlent? Comment bâtir une audience qui reste sur le long terme? Comment mesurer ses progrès? Et in fine, quels sont les différents moyens de monétiser un podcast?
Est-ce que, en fait, ce que j'apporte comme nouveauté, comme valeur à une audience que j'ai en tête, c'est 10 fois mieux que ce qui existe aujourd'hui? Une habitude, c'est très difficile à changer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire juste 2 fois mieux. Ça, c'est un canal de malade. Plus 30 ou 40%, ce qui est énorme en un mois et demi. Et là, pour le coup, on le voit, moins 40% d'écoute la fois d'après. On discute plus à partir du moment où on commence à parler de 20 ou 30 000 euros au niveau du deal.
Gabriel Gourovitch est le créateur du fameux podcast Growth Maker, qui creuse chaque semaine les raisons de la croissance des plus belles boîtes. Growth Maker, c'est aujourd'hui 1,5 million d'écoutes cumulées sur un sujet de niche. Il a lancé ce podcast il y a 4 ans et il a tout testé depuis pour faire grossir son audience. Il nous explique comment on peut tester des idées de podcast et diminuer les risques. Il nous révèle tout ce qu'il a tenté pour faire découvrir son podcast, comment itérer sur la direction à prendre et le format, nous dévoile ses chiffres et les différents enseignements qui ont marqué son aventure. Enfin, il nous présente sa façon de monétiser son podcast qui résulte d'une succession de tests et d'erreurs pour trouver le bon modèle. Instant promo, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma newsletter, la Growth Semaine, pour recevoir chaque dimanche le meilleur des contenus Growth Marketing de la semaine. Créer, faire grossir et monétiser un podcast, on en parle tout de suite, c'est parti. Je reçois aujourd'hui dans le podcast Gabriel Gourovitch. Salut Gabriel.
Salut Yann, merci pour l'invitation.
Et bien avec plaisir. Gabriel, tu es le créateur du fameux podcast Growth Maker, le premier podcast francophone estampillé Growth et un des premiers parlant exclusivement de marketing d'ailleurs. Mais Growth Maker, ce n'est plus que ça désormais, c'est un média avec d'autres types de contenus, une formation, tu pourras éventuellement nous en parler. Le podcast en lui-même a 4 ans maintenant, donc tu as pu tester plein de trucs pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc c'est cette expérience qu'on va creuser ensemble, si tu veux bien, pour donner toutes les infos possibles à ceux qui veulent se lancer sur ce canal ou potentiellement ceux qui galèrent avec leur podcast actuellement, quoi. Mmh. Alors, donc moi, j'ai suivi ton podcast depuis le début, depuis le premier épisode, et je me rappelle t'avoir vu arriver dans le sillage du podcast qui s'appelait Nouvelle École d'Antonin Archer, qui, avant de tourner en plus mainstream, arty et compagnie, et finalement était, de ma perception, un podcast startup business, si je me rappelle bien. Mmh. Et du coup, quand toi t'es arrivé, eh ben, j'avais l'impression que c'était un peu pareil, mais en beaucoup plus spécifique sur le marketing. J'ai cru comprendre qu'il t'avait conseillé. Et du coup, moi, ma question première, c'était pourquoi tu t'es lancé sur ce podcast à l'origine et qu'est-ce que tu voulais creuser plus spécifiquement, quoi.
D'abord, merci pour cette chouette présentation. Je ne sais pas si je suis j'ai été le premier à faire un podcast sur du marketing ou du growth, mais ou du contenu là-dessus. Mais en tout cas, moi, je suis parti, on est parti, parce que je suis depuis le début en association avec mon frère, qui à la base produisait les podcasts, donc est parti sur la partie plutôt formation du business, mais ça, on pourrait y revenir. J'étais parti du constat assez simple qu'à l'époque, il y a presque 4 ans, il y avait pas mal de contenu, notamment avec The Family, avec d'autres, des incubateurs qui développaient pas mal de contenu et d'événements pour expliquer comment se lancer, donc comment passer de 0 à 1. Et une fois qu'on était à 1, il n'y avait plus rien.
Ouais, ok.
C'était un petit peu aberrant comme ça. Après, il faut vraiment s'entendre que le marché était beaucoup plus early. Le marché de la start-up aujourd'hui est beaucoup plus mature. Avant, il n'y avait pas de série B, entre guillemets, il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, ça devient complètement logique d'en avoir une ou deux par semaine. Mais donc, ça va avec ce marché. Donc, je pense qu'on est arrivé au tout début pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas ce contenu, parce que je pense que la demande n'était pas encore réellement là. Et sauf que bon, elle était quand même un petit peu là, puisqu'il y avait des gens qui travaillaient déjà. Donc, pour les entrepreneurs, c'était génial. Pour tous ceux qui étaient à l'étape d'après, donc j'ai un produit, j'ai une entreprise qui commence à marchouiller, j'ai un peu de chiffre d'affaires, j'ai un peu de clients, qu'est-ce que je dois faire? Et là, en fait, il n'y avait plus rien.
Mais du coup, ce n'était pas à la base spécialement pour les CMO. Et c'était, de manière générale, les entrepreneurs qui veulent aller au-delà du 1, quoi, c'est ça?
Je ne sais pas si c'était à destination de qui au début, mais je pense que comme n'importe quel créateur de contenu, l'objectif principal, c'est de régler son propre problème. Donc je l'ai fait pour moi à la base. Moi je faisais du growth.
Okay.
J'étais growth manager dans une startup qui avait pas mal explosé qui s'appelait Lala Lab. Et ensuite j'étais passé à mon compte. Et je me suis dit autant faire une pierre deux coups. Pourquoi pas faire tout simplement ce que je demande aux personnes que je rencontre. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui j'ai 28 ans, à l'époque je devais en avoir 23 à peu près, 23-24. C'est compliqué d'aller voir une entreprise, un CEO, de lui expliquer pourquoi il faut te payer cher en freelance alors que tu es jeune et que tu as assez peu d'expérience. Ce qui est plus facile, c'est d'expliquer qu'en même temps, c'est pas possible d'avoir de l'expérience dans une discipline qui vient de naître. Donc ça déjà, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de dire, bah oui, et en même temps, je connais un tel, et on s'entraide pour créer nos stratégies. Donc moi, à la base, je le faisais déjà. Cette espèce de networking, d'aller voir des growths qui étaient déjà connus à l'époque, comme Guillaume Cabane, etc., et de discuter stratégie sur les clients que j'avais déjà à l'époque.
Ok.
Donc, ça vient d'où ? Ça vient en fait assez simplement. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs signaux faibles. Un, il n'y a pas vraiment de contenu là-dessus. Deux, moi, j'en avais besoin pour gagner et monter en niveau et en compétences. Et trois, tu l'as un petit peu dit, ça venait de commencer en France, le podcasting, même si ça existe depuis très longtemps, je dirais le podcasting qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec Antonin Archer, qui faisait le podcast Nouvelle École. Et en fait, on vient de la même bande d'entrepreneurs qui s'appelait Mangrove à la base. Mmh. Donc, on est tous des entrepreneurs à se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on fait ça de nos vies, et futur du travail, etc., etc. Et lui était parti un peu de la même chose. Et donc, comme tu disais, ça avait commencé très start-up, parce que le groupe était start-up. Et ensuite, il est parti sur lui ce qu'il avait envie. Parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, un podcast, on le fait pour soi,
ouais,
à la base. Et ensuite, si ça intéresse d'autres gens, c'est cool. Et on commence à construire, à builder une ligne éditoriale autour des besoins des gens. Mais c'est surtout son ton, c'est sa façon d'écrire, c'est sa façon de parler, d'angler les interviews, qui va être vraiment important et qui va donner toute la valeur du podcast.
Ok, donc quelques signaux faibles. Et surtout, une grosse envie de rencontrer des gens. Et si je comprends bien, c'était pas immédiat de trouver son product market fit avec un podcast. Et j'en viens à ma question suivante, c'est comment ça se passe la recherche de product market fit sur un podcast et comment ça s'est passé pour toi ?
C'est une bonne question, la méthode que j'ai utilisée à l'époque, parce que au final, moi, dès le premier épisode, c'était au tout début, j'ai eu la chance, l'extraordinaire chance, justement, d'être aidé par Antonin, qui avait ce podcast, qui avait déjà une petite communauté, et donc c'est plus facile pour commencer. Mais si je décris la méthode que j'ai mis en place, c'est tout simplement la méthode Lean Startup, donc de se dire comment est-ce qu'on dérisque et qu'on ne va pas travailler pour rien. Et que si on travaille, derrière, il faudrait qu'il y ait un peu de résultats. Et s'il n'y en a pas, très vite se remettre sur le droit chemin et sur quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai mis un petit plan marketing, moi, c'est mon métier aussi à la base, donc une petite stratégie marketing, et puis après, par où est-ce qu'on commence ? Et donc, très simplement, je me suis dit, avant d'enregistrer le premier podcast, avant même d'acheter le premier micro, je vais faire une landing page, donc une page simple où j'explique le concept du podcast. Tu peux mettre ton email et à partir de là, je me suis dit, si au bout de 3 semaines de lancement, donc où j'en parle un peu à droite à gauche, dans des groupes Facebook, dans des groupes LinkedIn, dans la newsletter de Nouvelle École, si au bout de 3 semaines, 1 mois, j'arrive à avoir 300 emails, alors ça veut dire que les gens sont intéressés, donc je peux continuer. Donc tu vois, c'est vraiment petite étape par petite étape. Donc là, j'ai dérisqué. Je ne sais pas comment arrive un product market fit, entre guillemets, du podcast, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des étapes qu'on peut checker et qui nous permettent de perdre moins de temps et de ne pas partir dans un truc absolument, c'est-à-dire d'exécuter du podcast pour exécuter du podcast. Parce que je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est très personnel comme envie, mais en fait, c'est très professionnel aussi. Moi, je ne le faisais pas, j'ai jamais fait ce podcast pour m'inspirer ou pour... Enfin, moi, je parle du principe que Growthmakers, quand tu l'écoutes, déjà, il faut être assez ouf pour l'écouter parce qu'on parle de trucs très techniques avec un jargon incompréhensible. Et moi, ça m'étonne toujours quand je vois autant de personnes qui l'écoutent. On vient de dépasser les 1,5 million d'écoutes en cumulé. Et même sur les autres émissions, c'est un peu pareil. Et je me dis qu'il y a des gens assez tarés pour se dire, vas-y, je vais m'écouter une demi-heure ou trois quarts d'heure de violence marketing, de croissance, et de voir comment est-ce que cette boîte fait pour croître. Alors, là, j'en viens où ? J'en viens sur le pourquoi je l'ai fait. C'était avant tout business et professionnel. C'était une envie. C'est-à-dire que moi, pour revenir, si je voulais chercher, gratter un podcast personnel, je ne sais pas, je pourrais aller sur un truc artistique, sur de la prod. J'aime beaucoup la prod audio-visuelle. Je pourrais aller là-dessus, par exemple. Ou sur du learning, ce qu'on fait aujourd'hui, sur de la pédagogie. Mais moi, à l'époque, ce n'était pas ça. C'était juste de dire, OK, je suis freelance, il faut aussi que j'arrive, un, à gagner en expérience, deux, à trouver des clients. C'est un super canal marketing pour trouver des clients et pour se donner de la légitimité. Donc en fait, finalement, j'ai essayé d'aligner les planètes dans un but quand même très concret, à la fin, de gagner des clients, de signer des clients, et donc de vivre de mon activité.
Ok. Mais alors du coup, tu as dit que tu avais dérisqué. Tu avais balancé finalement une landing page sur un truc qui n'existait pas encore. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que c'est encore possible de faire comme ça et qu'aujourd'hui, qu'il y a une offre podcast qui est assez pléthore, est-ce qu'on peut lancer un podcast juste sur une promesse pour voir si ça accroche ou est-ce qu'on n'est pas obligé de se lancer et d'exécuter un minimum?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'on revient 4 ans en arrière. A posteriori, c'est assez facile de se dire « Ah voilà, c'est pour ça, pour telle et telle raison que ça a fonctionné. » En vérité, moi, j'en sais rien. J'ai juste essayé de faire un truc qui me plaisait, qui pouvait avoir de l'impact pour le business et pour mon avenir professionnel. Et je suis vraiment intéressé par comprendre comment est-ce que une entreprise grossit, comment est-ce qu'une entreprise grandit. C'est un truc qui m'intéresse réellement. Donc, faut pas faire, je pense que la première chose, c'est de ne pas faire quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment, ou juste pour le business, ou juste pour la fame et les paillettes. Est-ce qu'on peut reprendre la même méthode? Oui, mais différemment. La méthode Lean, ça reste toujours la même chose. C'est comment est-ce qu'on dérisque et qu'on va prendre notre plus petite hypothèse et comment est-ce qu'on la valide ou l'invalide. C'est ça. Donc, quelle est la plus petite hypothèse? Je pense que la plus petite, c'est est-ce que les gens sont intéressés par ce sujet et par l'angle que moi, je vais donner. C'est la plus petite hypothèse. Comment est-ce que je vais valider ça? Je ne suis pas sûr que la première étape est la plus rapide, c'est de prendre un 2 micros et de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Je dis, j'en suis pas sûr. À l'époque, la preuve, donc pour en venir à ce que je m'étais dit, donc 300 emails en un mois, dans ce cas-là, je le fais. Et bah, la vérité, c'est qu'en 3 semaines, on était déjà à 400 emails, et je me suis dit, bon, y a un intérêt là-dessus, let's go. Mmh. A priori, je pense pas qu'on soit obligé de le faire pour le montrer. En tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est quand même vachement différent. C'est vachement différent parce qu'il y a une concurrence accrue. Je ne sais plus c'était quoi le chiffre, mais en 2020, surtout depuis la période Covid, confinement, je crois que c'était à peu près 100 podcasts qui sortaient différents toutes les semaines. Donc, dans ce nouveau paradigme, comment est-ce qu'on fait pour sortir notre épingle du jeu? Ben, la vérité, je pense que c'est de toujours faire le minimum, d'essayer de tester, de retester. Peut-être que c'est d'aller tout de suite aller faire un podcast et de voir comment ça fonctionne. Peut-être, peut-être pas. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'aller diffuser quelque chose à une audience qui en a quelque chose à faire, parce que le plus dur, je pense, aujourd'hui, c'est de prendre l'attention. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ouais. Une minute d'attention, aujourd'hui, d'une audience, ça vaut plus cher qu'un baril de pétrole, parce que c'est extrêmement dur. Comment on fait aujourd'hui? Je pense qu'il faut aller sur des nouveaux sujets. Faut toujours essayer de se positionner sur du comment est-ce que j'invente une nouvelle catégorie de marketing.
Ouais, bien sûr. Mais alors, du coup, tu vois, je trouve que même actuellement, les gens, ils donnent facilement la chance au produit quand c'est un podcast. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive quand même assez souvent d'aller écouter des nouveaux podcasts pour voir, tu vois. Mais par contre, je suis assez sévère et faut m'accrocher assez rapidement. Et pour le coup, il y a ce premier checkpoint qui va faire est-ce que je trouve que l'angle est intéressant, est-ce que je trouve que la personne pose des questions intéressantes, tout ça. Et puis finalement, il y a, on va dire, un deuxième checkpoint qui est évidemment très lié à la façon dont grossit n'importe quelle activité. C'est évidemment l'activation, donc on en reparlera. C'est voilà, est-ce que j'ai compris la valeur ajoutée pour moi? Et après, j'ai l'impression que la croissance d'un podcast se fait et évidemment sur le long terme. Et tu vois, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, s'il faisait du Lean Startup, il serait tenté de dire « j'enregistre un épisode, si j'ai pas des bons retours, si machin truc, je laisse tomber. » Alors que, en fait, il peut peut-être rater quelque chose parce qu'il aurait fallu qu'il en enregistre plus pour essayer de créer quelque chose. Parce qu'il a pas, voilà, par exemple, il n'a pas réussi à mesurer l'activation. Parce qu'on va voir que c'est très dur de mesurer des choses sur un podcast, mais il n'a pas réussi à mesurer l'activation, donc du coup, il aurait fallu qu'il continue pour créer quelque chose et que ça aurait pu grossir, mais qu'il l'a arrêté parce qu'il s'est donné des checklists et que du coup, voilà, il a juste enregistré un épisode, il s'est dit « ça ne marche pas, je laisse tomber », tu vois. Mmh. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi, le Lean Startup, aujourd'hui?
Je pense... Non, le Lean Startup, je pense que ça fonctionnera toujours. Moi, c'est ce que fait aujourd'hui. On a 3 émissions, j'en animais 3, j'en anime plus que 2. Je pense pas du tout, enfin, ça fonctionne à tous les coups. La question, c'est quelle hypothèse on essaye, encore une fois, de valider ou d'invalider. Et l'hypothèse, elle peut être très simple, c'est l'angle d'un podcast. Est-ce que, en fait, ce que j'apporte comme nouveauté, comme valeur à une audience que j'ai en tête, c'est 10 fois mieux que ce qui existe aujourd'hui? Je pense vraiment la règle des 10 fois, c'est la base. Est-ce que ce que je suis en train de créer, c'est vraiment 10 fois mieux que n'importe quoi qui existe sur le même sujet aujourd'hui. Est-ce que j'apporte un point de vue frais? Est-ce que j'apporte un point de vue qui n'a pas encore été exploré?
Ouais.
Parce que sinon, en fait, tout simplement, ça sert à rien. Les gens n'ont que 24 heures dans une journée, ils ont déjà des podcasts à écouter, ils ont déjà des séries à suivre, ils ont du travail à faire. En fait, la concurrence, je pense que tu es familier avec la méthode « jobs to be done
ouais. ».
Donc c'est quand on bâtit un produit, le fait de se dire en fait, on va hire ma solution, donc on va recruter ma solution par rapport à une solution déjà existante. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que notre public cible, notre audience cible, elle a déjà des solutions par rapport à son problème. Donc si son problème, c'est de ne pas comprendre le marketing, elle a déjà des blogs qu'elle va voir, qui lui prennent du temps. Elle a déjà peut-être des émissions de radio qu'elle va écouter. Elle a peut-être déjà des cours en ligne. Elle a peut-être déjà des magazines, etc., etc. Donc en fait, on est en concurrence directe. C'est pas nous ou rien. Il y a une concurrence, il y a déjà une solution à son problème, à cette audience. Comment est-ce que je fais différent? Et du coup, comment est-ce que je fais beaucoup mieux? Parce que 2 fois mieux, 3 fois mieux, ça suffira pas. Le coût de perdre son habitude,
ouais.
c'est déjà immense. Une habitude, c'est très difficile à changer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire juste 2 fois mieux. Il faut faire vraiment 10 fois, bien sûr que c'est fait exprès pour la comparaison. Mais c'est de dire, en gros, si on ne fait que 3 fois mieux, ça ne fonctionnerait pas. Parce que déjà 3 fois, lui, il ne pourra pas le voir en tant qu'auditeur. Moi, ça me coûte cher de changer. Ça me coûte cher de me dire, OK, je quitte cette habitude, je m'en crée une nouvelle. Et en plus, il faut que je prenne cette étape, cette barrière mentale, ce temps, il faut que j'essaye. Et l'essai, c'est énormément de comment dire, c'est très fort dans le choix, c'est très difficile à avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit 10 fois mieux.
Ok.
Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte.
Si, c'est tout à fait clair. C'est vraiment des stratégies de différenciation. En fait, c'est soit, de manière générale, pour un marché, le marché du podcast c'est le même, c'est soit tu arrives avec un sujet qui n'existe pas, donc tu es sur un océan bleu, et donc là, potentiellement, tu peux créer des habitudes, soit il y a déjà des gens qui sont là, et pour le coup, effectivement, ça coûte de l'argent de faire perdre des habitudes pour créer des nouvelles, et il n'y a que la différenciation qui va jouer. Et alors, du coup, ça me fait une transition parfaite avec les différents éléments de différenciation. Alors, évidemment, il y a le branding, forcément, mais il y a aussi le format. Et toi, tu as, avec Growthmaker, un format super bien cadré, qui a des raisons d'être là. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce choix de format ? Au niveau de la durée, au niveau de la structure, au niveau du fait que tu fais pas de blabla en intro sur t'as fait quoi comme études, ce genre de truc. Est-ce que tu peux nous parler de ce format ?
Le format, je pense que ça vient avec des partis pris et des convictions assez fortes de la part de l'animateur ou du producteur ou du podcasteur ou podcasteuse. Hein. C'est en fait, qu'est-ce que j'essaye de raconter là ? Qu'est-ce que j'essaye de faire ? C'est quoi l'essence de cette interview ? C'est quoi le succès à la fin de cette interview pour moi et pour les auditeurs. Moi, je suis très vite arrivé, comme élément de différenciation, tu l'as nommé, il y avait Nouvelle École, aujourd'hui, il y a Génération Tutocell, du très bon Mathieu Stéphanie, on l'embrasse, il nous écoute d'ailleurs, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Donc, quand tu arrives sur ce marché, tu ne peux pas faire comme tout le monde, sinon, en fait, t'es juste un nice to have, c'est la même chose. Et tout le monde s'en fiche, parce que, par exemple, moi, c'est bien de prendre cet exemple en ce concret, un auditeur de Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Pourquoi est-ce qu'il écouterait Growthmakers ? Si je fais la même chose, ce qui est amusant, c'est qu'on a un marché très proche puisqu'on a les mêmes invités à certains endroits. Pourquoi il écouterait Growthmakers alors qu'il y a déjà Génération Do It Yourself ? Je pense que c'est ça le vrai sujet, c'est de voir c'est quoi la concurrence, de quoi ont besoin les auditeurs, qui sont les auditeurs exactement ? Parce que c'est, enfin, la méthode Lean Startup, je crois que c'est aussi simple que ça. Hein. C'est, si on arrive à bien savoir qui est-ce qu'on target et ses besoins vraiment cruciaux, le caillou dans la chaussure. Faut imaginer cette audience parfaite qui a un caillou dans la chaussure et qui doit non pas marcher 100 mètres, mais qui doit faire un marathon. Et en fait, voilà, il a le pied en sang. Donc, c'est qu'est-ce que je peux lui apporter comme contenu, comme valeur dans ce contenu qui va le soulager. Pourquoi cette image ? Parce qu'il faut vraiment avoir ce truc de « je veux soulager, je veux apporter réellement de la valeur. Je veux pas du nice to have, je veux du must have. Si j'ai le pied en sang et que tu me proposes un verre d'eau, c'est cool. Si tu me proposes de changer de chaussure ou un bandage, c'est autre chose.
Mais alors, dans ce cas-là, ce choix de format, il a découlé donc de tes convictions qui sont liées à l'audience cible, alors, c'est ça ?
Exactement. Te dire, bon, moi, de quoi j'aurais besoin quand j'écoute un podcast comme ça ? Donc, c'est un peu, c'est quand on répond à son propre besoin, parce que moi, j'ai un caillou dans la chaussure, je suis jeune, je connais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe, et j'ai envie de comprendre. Déjà, c'est beaucoup plus facile, parce que je peux partir de mes besoins.
Okay.
Faut faire attention, parce que parfois, ça marche pas, mais il y a cette première chose. Deuxième brique, c'est d'aller voir ce qui se passe. Ok. Il y a déjà des interviews lifestyle de ces entrepreneurs, de ces CEO, de ces CMO. Très cool. Est-ce que moi, c'est ce qui m'intéresse ? Non. un, parce que ça existe déjà, deux, parce que profondément, je m'en fiche qu'il ait fait, et je m'en fous royalement qu'il ait fait HEC et qu'ensuite il ait bien travaillé et qu'ils ont tous les mêmes parcours. Donc tu vois, c'est une conviction très personnelle de se dire, moi je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est la boîte. Et c'est pour ça que sur Growthmaker, tu verras jamais le nom de l'invité tout de suite, même si on met sa tête, parce qu'il faut un peu ajouter d'humain sur la pochette, tu verras la boîte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la boîte a grossi. Donc c'est plus une interview d'entreprise presque que de personne.
Okay.
Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus trop de sujets. C'est t'essayes de comprendre très vite le contexte. Et moi, j'essaie de comprendre ce qui a fonctionné, c'est quoi les premières façons, les premières méthodes qu'ils ont mis en place, les premières stratégies pour acquérir leurs premiers clients ou leurs premiers utilisateurs. Ensuite, donc tu vois, c'est vraiment très chronologique. Et ensuite, c'est quoi les stratégies de l'année dernière qui ont super bien fonctionné, avec quelques hacks. Mais ça, on passe pas trop notre temps dessus parce que c'est une conviction profonde, c'est que j'y crois pas au growth hacking. Donc il y a toujours plusieurs convictions.
D'accord, ok, très bien. On trouve son format, évidemment, qui est en phase avec les attentes de l'audience cible et en phase avec ses convictions qui vont dans le sens d'une différenciation forte. Mais après, pour améliorer quelque chose, la première étape, c'est de pouvoir le mesurer. Et j'ai bien l'impression que c'est le point faible du podcast. Alors parlons un peu de tracking de podcast. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour traquer ce qui se passe et monitorer la croissance de son podcast?
Waouh! Ça, c'est une très, très bonne question. J'ai envie de te dire presque rien. Déjà, presque rien. Il y a 4 ans, zéro. Vraiment rien du tout. Aujourd'hui, on est un petit peu mieux, mais je t'avoue que le début du podcast, je pense que c'est comme le début d'un produit. Il n'y a pas besoin de monitorer à outrance. Et c'est marrant de la part d'un growth comme moi qui parle que data, analyse, apprentissage, et on reteste, et on analyse, et on a des résultats, etc. Oui, certes, faut voir ce qui se passe. Il faut essayer de comprendre, mais le plus important, c'est d'avoir un angle et quelque chose où tu apportes quelque chose de nouveau à la communauté, à l'audience. Et je sais que ça reboucle un peu tout le temps sur la même chose, mais le succès, il ne s'explique pas. Donc tant que tu n'y arrives pas, tant que tu n'as pas de product market fit, tant que ton podcast ne t'intéresse pas tellement, tu auras toutes les raisons de comprendre, enfin tu peux toujours essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Bah, c'est ça. Ça doit être l'angle, ça doit être peut-être le format. Donc par format, j'entends la structure de mes questions ou peut-être tout simplement la longueur du podcast. On pourra en parler. Moi, j'ai commencé à faire des podcasts de 1 heure. Maintenant, ils font plus de 30 minutes. Donc ça, c'est des itérations. Mais la vérité, c'est que dès le premier podcast, le tout premier que j'ai fait avec un copain qui s'appelle Jonathan Pépin, que j'embrasse aussi, qui nous a lancé et qui est celui qui a créé la Growth Team de chez Uber. Donc aussi important d'avoir des personnes qui sont un peu cool. Le tout premier, on a fait 700 écoutes. 700 écoutes à l'époque, c'est énormissime.
Ouais, effectivement.
Pour quelque chose d'aussi niche, il y a vraiment, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles du marché du podcast, c'était énorme. Et même moi, je me disais, c'est pas possible. Bon, la vérité, c'est que dès le deuxième podcast, la personne était un peu moins sexy, on a fait 250. C'est la vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quelque chose. Je l'ai senti dès le début. Et quand il n'y a pas, ça se voit.
Mais alors, comment tu fais pour itérer, du coup? Comment tu fais pour itérer si justement la seule chose que tu as au début, c'est le nombre d'écoutes? Et sans même savoir si le nombre d'écoutes correspond à 5 secondes d'écoute ou si c'est tout l'épisode qui a été écouté, quoi.
Et bah, comme dans un produit startup, tu parles à tes auditeurs, tu parles à tes clients, tu parles à tes utilisateurs. Comment est-ce que tu fais pour leur parler? Bah, si on reboucle avec ce que je disais au début, il y a une mailing list. On n'a pas d'outils, donc il faut prendre des outils qui existent déjà. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas trop au fait. J'ai l'impression d'être un peu le vieux du podcast qui n'est pas au courant des derniers outils un peu à la mode. Moi, c'est tout simple. C'est pendant le podcast, tu expliques qu'il y a une newsletter et tu le dis très honnêtement. Moi, j'ai besoin de votre aide, je fais un nouveau truc. En tout cas, à l'époque, j'étais venez dans la newsletter, expliquez-moi c'est quoi vos vrais besoins, comment est-ce que je devrais angler, qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, j'ai eu plein de retours, des retours qualitatifs. Parce qu'au début, c'est ça qui nous intéresse. Moi, de faire x2 sur mes écoutes, si je ne comprends pas pourquoi, ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est d'itérer. Et donc, en demandant chaque semaine, eh ben, y a plein de gens qui répondaient.
Donc du coup, tu dis que, et d'ailleurs, c'est un peu ce que tout le monde fait, après, on en reparlera évidemment de cet écosystème autour du podcast, mais qu'en fait, un podcast comme unique canal pour s'adresser à une audience, c'est trop léger. Et qu'il faut agrémenter cet écosystème avec d'autres moyens pour pouvoir justement avoir des retours, pouvoir communiquer et pour pouvoir itérer sur le produit, quoi.
Ah ouais. Ouais, bah oui, parce que par définition, un podcast, c'est unilatéral. C'est toi, moi qui discutons et d'autres personnes qui sont passives et qui écoutent. Comment est-ce que ces personnes qui sont passives, on peut les rendre actives? C'est-à-dire qu'elles donnent leur avis, qu'elles expliquent ce qui les intéresse à un moment donné. Bah, à l'époque, par exemple, il y avait d'aller sur SoundCloud et les gens pouvaient mettre des commentaires à des endroits. ça hyper cool, hyper cool. C'est un autre moyen qualitatif d'avoir les moments qui ont trop plu, les citations punchline, waouh là c'est incroyable, ou encore là je comprends pas ce qu'il raconte. Donc ça pareil, c'est un autre moyen de récupérer de la data et nous d'itérer.
Ok, juste pour repasser rapidement sur les metrics, on a aucun moyen d'avoir le taux de complétude par exemple.
Ah si, oui, bien sûr.
Sur un épisode, c'est juste pour ceux qui veulent se lancer, qui sachent où ils mettent les pieds. Donc t'as le nombre de vues. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme chiffre intéressant ?
Je pense honnêtement que tu l'as dit, hein, le plus important, c'est l'engagement. Dans la méthode d'une startup, et pas que cette méthode, mais aussi je fais référence à Kevin Kelly, il me semble, 1000 True Fans, mais c'est exactement le même état d'esprit. C'est de se dire, si j'en ai 100 qui sont hardcore fans, alors je peux en avoir 200, alors je peux en avoir 1000, et c'est comme ça qu'on construit une communauté. Pourquoi ? Parce que ces 100 de départ ou ces 1000 de départ, ils vont revenir semaine après semaine. Et là, on parle donc de rétention, de compound interest. Et c'est comme ça qu'on construit un podcast qui dure. Si je dois à chaque fois acquérir des nouveaux auditeurs, ça marche pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils restent dans le temps. Et donc ça, on peut le voir. On peut le voir en déduisant. Moi, je sais pas qui revient. Je sais pas avoir le nombre de personnes qui reviennent chaque semaine. En revanche, je peux voir que si chaque épisode reste dans la même trend, alors ils reviennent. Donc c'est plus de la déduction que vraiment quelque chose de carré et de cartésien.
Ok. À quoi on peut s'attendre comme chiffre aujourd'hui quand on lance un podcast ? Alors, les chiffres que tu fais actuellement, ça m'intéresse quand même. Sur un podcast Growthmaker, moyen, tu as combien d'écoutes à peu près ?
Bah, tu vois, c'est amusant que tu me poses cette question parce que moi, je ne regarde pas trop les écoutes par épisode. Donc, je regarde...
Sur une période ?
Exactement. Je regarde sur une période, c'est ça, je regarde en weekly, en monthly. Et si jamais il y a des variations dans la norme, donc des moments où ça explose un peu, j'essaie de comprendre pourquoi. Donc c'est là où c'est intéressant avec la data, c'est que je regarde a posteriori ce qui peut se passer. Et quand je dis je fais quand même un coucou à Marine, notre productrice, qui c'est quand même elle qui fait tout ça. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc c'est le sujet, voilà, c'est de se dire, moi les épisodes qui fonctionnent bien ou moins bien, ça m'intéresse que moyennement. Ou alors il faut qu'il y ait une grosse variation dans la norme. Parce que c'est un peu bête. Mais à partir du moment où on a un petit peu d'épisodes, il y a des patterns qui reviennent et qui sont évidents a posteriori. Donc, par exemple, un épisode B2C, par exemple, un épisode que je vais faire avec Chiloé ou avec Feed ou avec n'importe quelle marque un peu connue du grand public, Uber, Deliveroo, que sais-je.
Ça monte.
Et bah, par définition, vu qu'il est plus connu, il va donner plus envie d'être écouté. Donc, je vais faire 30-40% de plus d'écoute dessus. Juste parce que c'est plus connu. Juste parce que d'autres newsletters ou d'autres médias se disent « Ah, hyper cool, on le met. » Là où... Quand j'interviewe un B2B SaaS, à un moment donné, c'est hyper intéressant, mais c'est pas sexy.
Oui, c'est pareil. Si tu reçois Oussama Hamar, d'un coup, tu auras 20 000 écoutes.
Exactement.
Oui, d'accord. Mais alors, du coup, c'est quoi l'ordre de grandeur à peu près sur un podcast, on va dire star, entre guillemets, qu'est-ce qui fait comme nombre d'écoutes sur un épisode à peu près au bout d'une semaine.
Ok, voilà. Pour répondre directement, aujourd'hui, on est à peu près à 20 000 écoutes par semaine. Donc, on est entre 20 et 25, donc entre 80 et 100 000 écoutes par mois sur Growthmakers, donc le podcast en entier. Et chaque semaine, on sait qu'il y en a 50%, et ça se vérifie à chaque fois, hein, qui sont des écoutes des anciens épisodes. Donc, on peut à peu près, en moyenne, je pourrais pas te dire un chiffre exact, mais donc en déduire qu'à 20 à 25 000 par semaine, l'épisode AJ+7 fait entre 8 et 12 000 écoutes.
Ok, d'accord, très bien. Alors ça, c'est pour un podcast historique. Et du coup, par exemple, quand tu lances...
Historique de niche,
ouais.
C'est très niche, hein, c'est des tout petits chiffres d'écoute, ça.
Mais alors, pour le coup, quand tu lances un podcast genre dans l'arène, c'est un podcast que tu as lancé sur les sales, t'es sur quel ordre de grandeur après quand tu pars sur un nouveau truc ?
Oh oui, bah, très bonne question.
Ça part pas de zéro non plus, parce que tu as une audience déjà, tu as potentiellement des gens qui sont...
Ça part pas de zéro, mais c'est exactement la même chose. Donc, même méthode, on fait une landing page... On envoie des gens dessus, alors c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a déjà une audience, donc déjà la chance d'avoir la mailing list où il y a plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 8000, il me semble, sur la newsletter. Alors c'est beaucoup plus facile de lancer quelque chose, c'est clair. Et c'est tout le sujet, c'est qu'il faut bâtir brique par brique. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais, si tu es familier avec cette théorie de du business ou créer, c'est tu fais un point. Ce point, c'est ton premier, c'est là d'où tu pars. Et ensuite, tu as ceux qui vont faire un autre point, qui n'a à peu près rien à voir. Ça te demande donc deux fois plus de travail, puisqu'il faut tout refaire. Puis tu as ceux qui décident de faire un cercle autour du point.
Oui.
Donc, ça veut dire quoi ? Bah, par exemple, ça veut dire, moi, je commençais, mon point, c'était de faire du freelance. J'ai fait un cercle, parce que j'ai fait un podcast sur du growth. Ensuite, j'ai fait une formation sur du groove, c'est un autre cercle autour. Et en fait, tout ça, ça va être... il y a des synergies qui vont vachement se nourrir. Et c'est un cercle vertueux qui n'arrête jamais. Parce qu'une personne qui écoute les podcasts peut faire une formation, qui peut ensuite aller amener quelqu'un à venir faire du freelance avec moi. Donc en fait, quand on continue comme ça, forcément que c'est beaucoup plus simple. Et donc si on continue la théorie des cercles, bah, le cercle encore un peu plus grand, c'est de dire de quoi on a besoin le reste. Ah, il y a de la place sur du sales, allons voir du sales.
Ok, alors c'est marrant que tu parles de théorie des cercles, parce qu'en fait, moi, j'ai identifié deux théories qui sont assez proches. C'est d'abord le capital social, qui est une théorie qui est très liée au créateur de contenu, qui est justement de tacler une thématique, d'apporter un type de contenu sur un truc, et après, évidemment, de créer autour un écosystème qui va être peut-être une newsletter de curation, un podcast, une chaîne YouTube, un truc, un produit, une formation, un truc. Donc c'est exactement ce que tu dis. Et il y a le concept de single user utility aussi, qui est un concept de marketplace, où en gros, en fait, tout ça, c'est de la rétention, en vrai. Hein, c'est de la rétention d'audience. C'est, tu dis, bon, j'ai ma marketplace, j'ai les gens qui arrivent, et j'ai les autres, j'ai un problème de poulet de l'œuf. Si, au départ, il y a des problèmes de supply ou de demande, bah, j'ai des gens qui vont se barrer. Donc, il faut que je trouve un moyen de faire rester les gens dans l'écosystème de la marque, de les faire rester autour pour qu'ils restent suffisamment longtemps pour avoir l'autre personne qui va venir faire la transaction sur la marketplace, tu vois. C'est typiquement ce qu'on peut avoir sur Miro, tu vois, la plateforme de photographes à la demande, où ils ont créé des petits outils pour les photographes, des trucs pour les aider à facturer, des trucs pour les aider à uploader leurs photos à leurs clients, plein de raisons pour qu'ils restent dans l'écosystème, tu vois. Ce que tu appelles la théorie des cercles, est-ce que ça a un nom ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a conceptualisé ?
C'est une bonne question. Oui, j'invente rien. Moi, 100% de mes théories, de mes idées, c'est d'autres personnes qui me les ont données. Donc, j'imagine que je l'ai lu sur un blog ou entendu dans un podcast.
Ok.
Lequel, je ne sais plus, mais peut-être Noah Kagan, peut-être Tim Ferriss, peut-être...
Ça s'appelait théorie des cercles, c'est ça ?
J'en suis même pas sûr. Ce qui est important quand on a ce genre d'idée, c'est de se réapproprier les théories. Comme ça, je leur donne mes noms et je peux faire croire que c'est moi qui ai cette idée.
C'est hyper important. Et d'ailleurs, au passage, le truc le mieux, c'est de le modifier un tout petit peu. Et en disant ça c'est nul, mais moi j'ai la solution, c'est meilleur et mon concept est encore mieux. Ça s'appelle, j'ai découvert ça en interviewant Alexis Minkela. Il m'a expliqué que c'est un terme de copywriting, ça s'appelle la mécanisation. En fait, c'est quand tu rebrandes un truc qui existe déjà et que tu lui donnes un autre nom, genre un acronyme, tu vois, ou un truc comme ça, et du coup tu passes pour un créateur de concept et là tu passes au level supérieur, tu vois.
Exactement.
Et c'est du marketing, quoi. Enfin bref. Donc la théorie des cercles, donc c'est copyright Gabriel Gourvitch, du coup.
Exactement.
Mais ça rejoint un peu tout ça. Donc ok, je vois tout à fait ce dont tu parles, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, alors du coup, concernant Dans l'arène, dis-moi.
Voilà, et ben même méthode. Méthode, une landing page, on parle un peu dessus pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés. On a bien sûr étoffé le truc, c'est d'aller faire un peu plus de bruit, notamment sur notre newsletter, d'autres personnes, parce que du coup, tu es dans le réseau des podcasteurs. Il y a un réseau des podcasteurs indépendants qui est assez fourni, qui s'appelle Les Mutants, il me semble. Et donc, tu peux, dès le début, créer plus d'émulsions autour de ça et avoir ces fameux 100, 200, 300. Et je suis passé exactement sur la même chose. 2 ans et demi après, on met le couvert. C'est quand même une thématique un tout petit peu différente. C'est-à-dire que si on reprend cette théorie des cercles, ça pourrait être un autre point, puisqu'on parle d'autre chose. On parle de commercial, on parlait beaucoup de marketing. Bon, sauf que le commercial, moi, quand je prends du recul, mon sujet, c'est de comprendre comment une boîte grandit, comment une boîte grossit. Et dans une boîte B2B, commercial, marketing, ça devient très proche. Donc, pour moi, ça reste un cercle. Même méthode, vraiment. Une page, des gens qu'on envoie dessus, et on regarde s'ils sont intéressés. On envoie quelques invitations à des gens qu'on a en tête, à des invités un peu cool qu'on a en tête, pour pouvoir les mettre sur la page. C'est pas juste une page où on écrit. Hein.
Ah, mais je me rappelle de cette page, je l'ai vue. Donc en fait, quand tu avais fait cette page-là, où il y avait déjà des têtes, effectivement, il y avait deux, trois têtes, c'était pas encore enregistré, en fait.
Bien sûr que non.
Ah, bravo, bravo. J'ai cru que c'était enregistré. Bien, bravo. Je me rappelle ça.
Non, il n'y avait rien du tout. Et c'est tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on dérisque. Et donc là, rebelote. Si on fait quelques centaines d'emails au bout de quelques semaines, c'est bon. C'est ce qui s'est passé. On a eu la chance d'être rejoint dans cette aventure par des sponsors, donc ça c'est aussi une nouveauté. Ils se sont dit bon, comment est-ce qu'on fait mieux quand même, juste relancer un podcast, ça sert pas à grand chose. Et on a été rejoint par un fonds d'investissement qui s'appelait, parce qu'il est plus sponsor, Idinvest, donc un très gros fonds d'investissement, et Salesforce qui est devenu notre sponsor historique sur ce podcast. Et donc maintenant on continue et on monétise avec eux.
Ok, bon, on parlera de revenus après, mais alors du coup on va commencer avec l'acquisition. Alors l'acquisition pour un podcast, quels sont les moyens de découvrabilité d'un podcast? Alors, rassure-toi, c'est une question rhétorique. Je ne vais pas te demander de faire un monologue là-dessus.
Tu veux que je te liste les canaux?
Non, je vais les faire un par un mois et du coup, on va voir ce que tu en penses. Donc déjà, il y a le truc qu'on entend tout le temps, c'est pousser aux avis. Et les gens, en fait, dans leur podcast, ils disent « mettez une note, s'il vous plaît ». Parce que ça m'aide pour le référencement. Si vous voulez m'aider à faire grossir le podcast, mettez une note. Et en fait, c'est un truc que finalement les nouveaux créateurs se mettent à répéter, mais sans vraiment savoir pourquoi ils disent ça, je pense. Et moi, je me rappelle que tu l'as vachement poussé à un moment. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Et ça fonctionne sur quelle plateforme? Parce que je sais que sur Apple Podcast, oui, ça va jouer. Si tu as plein de bonnes notes, ça va forcément te faire monter, je suppose. Et encore, j'ai rien pour le prouver. Hein. C'est une sorte de SEO d'Apple Podcast, donc ça reste de la rétro-ingénierie. Mais alors, je suppose que toi, tu as creusé un peu plus que mon état actuel d'interrogation. Quoi.
On a un peu creusé. Après, y a pas c'est comme le SEO en pire, puisque finalement, c'est quand même assez jeune. C'est-à-dire qu'Apple Podcast, il y a encore très peu de temps, ils n'en avaient rien à faire des podcasts. Donc en fait, il n'y avait ni outils pour vraiment monitorer. Et puis, je pense que l'algorithme était un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'algorithme pour être feature. Donc, feature, c'est être mis en avant sur Apple Podcast, sur iTunes. Fallait avoir l'email de la bonne personne chez Apple. Et si jamais tu étais assez cool, ils voulaient bien te mettre.
Ok, donc, c'était comme l'App Store, quoi.
Voilà. Et donc, vu que c'est les mêmes cultures d'entreprise, c'est la même boîte, bah, en fait, c'est la même chose. Alors, quand tu dis c'est quoi les canaux pour faire grossir un podcast, moi, j'en vois pas mille. Au tout début, c'est comme une boîte, tu cherches des petits canaux de traction. Donc, c'est des petites communautés, des groupes Facebook. Comme tu dis, de pousser aux commentaires et faire des notes, ça, c'est, on va prendre donc plutôt l'algo de l'App Store. Super, mais ça, moi, j'y crois un petit peu. Parce que quand tu arrives maintenant, l'algo, il prend plus les new and noteworthy. Donc, je sais pas si tu vois, c'est cette catégorie où tu peux être assez rapidement vu. T'as ça, mais moi je crois vraiment beaucoup plus au canal de traction, c'est-à-dire d'aller dans les bonnes communautés, dire regardez ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez, okay, donc, ça a l'air d'être cool.
Donc de la découvrabilité externe finalement.
Ouais, complètement, bah externe, je vois pas trop à part aller en parler, mais comme pour une entreprise, d'aller en parler à ses copains, à son premier cercle, à son deuxième cercle, d'aller sur LinkedIn, de l'envoyer à tout le monde, en fait c'est de faire des choses qui scalent pas, c'est d'y aller vraiment avec tout ce qu'on a.
C'est pour se lancer au début. Exactement. En parlant de canaux externes, le SEO peut être un moyen de faire découvrir du podcast aussi. Je sais que oui. Le Super Daily, par exemple, de l'agence Supernatif, ils font une super page pour chaque épisode, et comme ils font un épisode par jour, ça commence depuis le temps à leur ramener du SEO.
Voilà, donc là, c'est une stratégie très très long-termiste. C'est-à-dire qu'il faut faire 300 sons de podcast par an, ouais, et avoir une équipe derrière qui délivre du SEO. Alors moi, je trouve ça génial pour un podcasteur indépendant et qui vient de se lancer et qui n'a pas toutes ces ressources-là, je ne sais pas si je miserais là-dessus. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus simple.
Tu sais ce que j'ai pensé, moi juste sur ce sujet-là, j'ai pensé à un truc, je ne l'ai jamais fait, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je voulais prendre le transcript d'un épisode et le foutre sur une page qui serait au début suffisamment UX sympa, mais qui aurait évidemment plein de contenu puisque j'aurais mis tout le transcript sur la page. Mmh. Ça pourrait être une idée.
Ça, c'est une très bonne idée. Ça fonctionnait pas, il y a quelques années, puisque les outils de transcript qui commencent maintenant à beaucoup mieux marcher étaient uniquement en anglais. Ouais. Moi, j'avais fait pas mal de tests, ça marche très mal. Ça marche très mal parce que quand il y a deux personnes qui parlent vite comme nous, ou qui mangent la moitié de leurs mots, ouais, ou qui parlent en même temps, l'algo ne comprend plus rien. Ça marche bien si on parle distinctement comme ça et qu'on parle doucement, etc. Là, sinon, ça marche pas du tout. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais ça reste du quick win. Pour moi, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour apporter plus de valeur d'un côté donc à notre audience, et nous ça va nous apporter de la valeur aussi. Parce qu'on est en train de faire actuellement, c'est exactement ça. Ça c'est un canal extrêmement important, c'est ce qu'on appelle du cross-promo. Genre moi je viens sur ton podcast et puis toi tu viendras sur le mien. Parce qu'on a des choses à apporter.
Ah bah j'allais en parler justement. la cross-promo. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont du coup mettre en place des plannings de cross-promotion. C'est-à-dire que tu as même fait, je me rappelle un moment, tu faisais venir un mec en début de podcast en disant voilà, je suis avec Bidule, il est sympa, allez voir son podcast. Et du coup, je suppose qu'il faisait la même chose de son côté.
Exactement.
Et ça, c'est un truc que tu fais plus, non?
Ça, c'était une très bonne opération. Non, on le fait plus parce qu'on a un peu grossi, donc c'est plus compliqué. Je conseille de faire ça avec des podcasts et des podcasteurs ou podcasteuses qui sont dans les mêmes thématiques. Mais c'était donc toujours ce même network, donc ce network qui s'appelle Les Mutants. Et en fait, on s'était dit à un moment donné, bon les gars, venez, on se fait un truc, c'est on se fait tous de la cross-promo, on est tous là, on est 10, on fait chacun, voici machin, il va voir son podcast, et on était passés chacun les uns chez les autres, tout le temps.
Okay.
Et ben, ça avait, là pour le coup, c'est gratuit, c'est zéro, et là tu fais une acquisition de folie.
Ah.
Ça, c'est un canal de malade.
T'avais vu des gros chiffres grâce à ça?
Oui, on avait fait, je sais plus, en tout, sur la traîne, tu fais en global, plus 30 ou 40%, ce qui est énorme en un mois et demi, en ayant dépensé zéro.
Ouais, écoute, là tu viens de me convaincre, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient proposé ça, et je disais là, ouais, je sais pas, machin. Mais écoute, je suis convaincu, ok.
Ah si, faut y aller à fond, c'est...
Très bien, parfait.
C'est pour ça que le game du podcasting, c'est aussi, viens, tu voudrais que je t'invite sur mon podcast pour aller ton podcast, et pour pas le faire trop, parce que sinon si on le fait à outrance, ça, c'est pas hyper bon, et puis je pense que l'audience commence à te dire, mais qu'est-ce que vous faites, mais quand ça apporte de la valeur, genre ce genre de discussion, bah là il n'y a pas de sujet.
Ouais, ok. Notoriété des invités. Genre, on a parlé d'Oussama Hamar tout à l'heure. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir énormément d'écoute, c'est de l'inviter lui. Il y en a d'autres, évidemment. Mais pour le coup, évidemment, si on peut avoir un relais de l'invité derrière qui va en parler et dire voilà, je suis passé dans tel podcast, c'est un autre moyen d'acquisition.
Mais c'est tout le game. Hein. C'est tout le game.
Et alors, du coup, est-ce que toi, tu forces le truc? Est-ce que tu dis. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux publier ce truc? Est-ce que tu forces le process ou est-ce que tu laisses tes invités le partager ou pas?
Les deux, mon capitaine. On ne force rien, mais on donne les outils pour le faire.
Okay.
On facilite énormément. On va faciliter avec des petites citations. Donc, en fait, Marine, toujours la même productrice, envoie à 7 jours du podcast tout un espèce de kit presse, un kit média, pour le partager facilement. Donc, on facilite. On n'oblige absolument rien. Heureusement, et on facilite. Et en fait, à partir d'un moment, je pense que si le podcast est assez cool et qu'on a assez travaillé notre marque, les gens sont fiers de le faire. Et là, aujourd'hui, ils le font sans qu'on leur demande. Et trois quarts du temps, ils n'utilisent même pas le kit média. Juste, ils sont hyper contents de le faire.
Ok, très bien. Autre moyen d'acquisition et de découvrabilité qui n'est pas encore au point, mais qui va le devenir, je pense, si tu vas me dire ce que tu en penses, ça va être à terme l'algo de suggestions et de recommandations sur des plateformes genre Spotify, Deezer et compagnie. Moi, par exemple, j'écoute Spotify par rapport à des playlists qui me recommandent par rapport à mes goûts, tu vois. C'est-à-dire que tous les lundis, j'ai une playlist de trucs, mais j'ai beau écouter des podcasts sur Spotify, ils ne me recommandent jamais de podcasts. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore mis en place, mais ça peut devenir potentiellement un gros canal de découvrabilité.
Là, je vais te décevoir, je ne m'y suis pas du tout intéressé. Je ne suis pas quelqu'un qui va être passionné par comment est-ce que je vais avoir juste plus d'écoute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je donne plus de valeur. Alors oui, si on me découvre plus, c'est bien, c'est cool. Mais il y a mille autres façons. Moi, le podcast, c'est juste un format pour amener notre thèse, notre vision, notre mission, notre raison d'être en entreprise. Des podcasts, c'est pour ça qu'on a trois. C'est pour ça qu'on va être très actif sur LinkedIn. Donc en fait, des canaux, ils sont très multiples. Et pour moi, ils sont juste là pour servir notre mission.
Je suis assez dans ta vision growth marketing, c'est-à-dire que je m'intéresse quand même aux canaux d'acquisition, mais je suis bien conscient que les vrais ressorts de croissance sont sur les autres étapes du framework R, et notamment justement sur l'engagement, sur la rétention et sur le fait d'accrocher les gens et de les activer, ce qui me fait une super transition avec donc la deuxième étape, l'activation. Le problème, c'est que l'activation, comme j'ai évoqué rapidement dans l'intro, c'est bien de parler d'activation, mais ce qui est mieux, c'est de pouvoir la mesurer si on veut l'améliorer. Et pour le coup, en fait, c'est quand même très dur d'identifier quelle est la métrique d'activation pour un podcast. Alors moi, j'ai une petite théorie, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai l'impression que si quelqu'un écoute un épisode de ton podcast qui te découvre et que assez rapidement, il écoute un deuxième épisode de ton podcast, sur une durée limitée à définir, je sais pas moi, 2 jours, tu vois, ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il a bousculé sa playlist d'écoute ou sa playlist de contenu, il a changé sa playlist, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand t'as bousculé les habitudes de quelqu'un, au point qu'il a mis en priorité le deuxième épisode, parce qu'il a envie de gratter plus, et ben ça, ce serait une bonne preuve d'activation. Qu'est-ce que t'en penses de ça ?
Je pense effectivement qu'il y a... Bah déjà qu'on n'a toujours pas la data pour savoir ce qui fait que quelqu'un accroche ou pas, hein, on va pas se mentir. Donc si on essaie de trouver des preuves d'activation comme un Uber Eats qui sait que si tu commandes 2 fois dans les 48 premières heures où tu deviens client, alors tu as beaucoup plus de chances d'être activé et donc retenu. Et être retenu, c'est faire au moins une commande par semaine. Pour nous, en tant que podcasteurs, on n'a pas cette data. Là, pareil, c'est un peu au doigt mouillé, et c'est pas grave. Donc, moi, je regarde juste les trends en général. Et effectivement, peut-être que quelqu'un qui va écouter 2 épisodes de suite ou 3, il sera activé, il sera engagé et peut-être qu'il sera retenu. La vérité, c'est que 1, j'en sais vraiment rien. Et 2, comment est-ce que même avec cette info, je vais pouvoir changer ce comportement. Parce que toute l'idée de la data, c'est de pouvoir changer le comportement. C'est quand tu t'en rends compte, qu'est-ce que je peux faire pour le pousser, par exemple, peut-être que c'est 3 podcasts, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'il écoute 3 podcasts de suite ?
Eh ben, j'ai une idée, justement. J'ai une idée et j'allais te la proposer aussi. C'est-à-dire que, en fait, moi, je fais plusieurs trucs. Donc, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube. Et il y a des pratiques sur YouTube qui consistent à, justement, faire augmenter le watch time. Parce qu'il y a d'autres problématiques sur YouTube. Et en fait, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire, qui serait une analogie de pratique YouTube, ce serait en fait de teaser d'autres épisodes de podcast dans ton épisode de podcast. C'est-à-dire que se forcer à placer dans un épisode de podcast des teasings d'autres épisodes pour donner envie aux gens d'aller écouter un second, ce genre de truc, tu vois.
C'est hyper intéressant, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est une très bonne idée. Et tu vois, ce genre d'idées, on peut les avoir notamment dans... j'ai réfléchi à voix haute, hein, on peut vachement s'inspirer de ce qui existe déjà dans les médias. Il ne faut jamais réinventer la roue dans quoi que ce soit. Ouais. Et la meilleure façon de ne pas réinventer la roue, c'est de voir ce qui existe. Et effectivement, il suffit de regarder BFM Business ou d'autres médias, on se rend compte qu'il y a des teasers d'émissions partout, qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vont pousser parce qu'ils ont exactement les mêmes limitations que nous en tant que podcasteurs.
Oui, c'est ça. C'est que le média traditionnel, il est dans le flou, un peu.
Exactement. Il est dans le flou et il a les mêmes problématiques, les mêmes enjeux et pas beaucoup plus de moyens ou d'outils. Donc, on peut vachement s'en inspirer. Après, moi, je crois beaucoup que la différence, c'est qu'un podcast, c'est avant tout, personnifié par l'hôte. Et ça, BFM Business ne l'a pas. Eux, par contre, ils vont avoir plusieurs journalistes qui personnifient une émission.
Ouais, ouais, d'accord.
Nous, on ne l'a pas, donc on peut faire différemment, avec LinkedIn, avec... Mais est-ce que je pousserais... J'en suis pas sûr. Pourquoi ? Parce que je pars vraiment du principe que si ce qu'on fait apporte beaucoup de valeur, alors on aura envie d'écouter plus. Je pense que c'est vraiment une bonne idée d'essayer, hein. Mais comment est-ce que je vais faire pour le mesurer ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne pas ? Au vu de ce que ça me coûte en tant de temps, que ressources, de l'équipe, etc. Bah, c'est complexe. Puisque on a toujours rien, enfin en tout cas moi de mon côté j'ai rien pour mesurer.
D'accord. Alors du coup c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est au niveau de la personnification, parce que ça nous emmène au point d'après qui est la rétention. La personnification, en fait c'est quelque chose qui existait déjà dans la rétention pour une émission de radio à l'époque où le podcast n'existait pas. C'est-à-dire que les gens s'attachaient à une voix, c'est-à-dire que ils avaient l'habitude de faire leur sauce pour les pâtes en écoutant telle émission, donc ils avaient la voix de la personne qui leur rentrait dans les oreilles, ça devenait une voix familière, ça devenait comme un membre de la famille, tu vois.
Exactement.
Et pour le coup, je crois que avec une fréquence comme tu as, il y a beaucoup de gens qui doivent te considérer comme un membre de leur famille quand ils vont courir sur leur tapis roulant ou quand ils vont faire la cuisine, ils se placent un petit gross maker pour le truc, tu vois. Ça peut être une piste intéressante, c'est-à-dire que on sait très peu de choses de toi, à titre personnel, et pourtant, tu dis de toi-même que la personnification est un élément central dans l'adhérence avec le podcast. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de révéler un peu plus de alors je vais pas dire de sa vie privée, on va pas faire du people à ce point-là, mais de jouer un peu plus sur l'affect au niveau de la personnification et de se présenter un peu plus, de jouer un peu plus transparence et d'être un peu moins au service de l'invité, tu vois, histoire de renforcer cette adhérence avec la personne?
Ouais, là, je pense que c'est assez personnel en tant que créateur, en tant que podcasteur. C'est assez personnel comme choix. Dans tous les cas, on l'incarne d'une manière ou d'une autre, notre podcast, notre travail, la matière qu'on travaille. En fait, on l'incarne d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui me paraît très important, c'est, comme je disais, je ne suis pas en train de parler de la vie de l'invité, donc je ne peux pas parler de ma vie. En revanche, je peux parler de ma boîte. Je fais des interviews sur comment est-ce qu'on fait grandir une entreprise. Je veux bien parler, et je suis totalement transparent, sur comment est-ce que je fais grandir la mienne, sur les portes qu'on se prend. Sur... Là, il n'y a pas de souci. En revanche, ça me paraît compliqué d'amener un petit peu trop de perso là où, en fait, je ne veux pas qu'il y en ait de la part de mon invité.
Ok, ok.
Comment est-ce que je peux contrebalancer ça? Bah, par exemple, on a fait tous les ans, bah là, je ne l'ai pas fait, mais tous les ans, pour la centième du podcast, aujourd'hui, je crois qu'on est au 130e ou quelque chose de genre, pour la centième, j'ai fait une rétrospective sur 3 ans de podcast. Et là, je parle de moi, je parle de mon passé, de ce que j'ai fait comme étude, pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. Après, je pense que c'est pas le but du format. Donc c'est pour ça que j'irai pas plus dans l'affect ou quoi que ce soit.
Non, mais t'as raison. Je veux dire, en termes de branding, si tu demandes pas du tout de perso à tes invités, t'as aucune raison de le faire pour toi. Par contre, effectivement, jouer la transparence sur ta propre activité est quelque chose qui renforcerait l'adhérence avec la personne et qui serait cohérente, du coup, effectivement.
Bah, c'est cohérent, et puis en plus, moi, c'est des conseils gratos. Parce que c'est-à-dire que quand je dis comment, là, j'ai un problème sur les formations en ligne, on a 4, etc., je parle de mes problèmes, et là, tu as des gens extrêmement doués et brillantissimes qui te donnent des idées. Donc, c'est du consulting gratuit. Donc, tu vois, j'ai tout à gagner à faire ça, en plus. Mais pas de parler de moi, mes réflexions personnelles, ou je sais pas quoi. Je pense que c'est aussi des convictions. Ça me saoule un peu... les podcasteurs qui parlent beaucoup d'eux. Parce que c'est, je trouve, une grosse dérive qui se passe de plus en plus. En fait, tu fais un podcast pour parler de toi. Les gens s'écoutent parler. Et ça, moi, c'est un truc que j'essaye absolument de pas aller dedans. Alors, c'est sûr, j'y suis un petit peu par moment. Mais je trouverais ça bien, un peu comme pourquoi les médias et les journalistes meurent aujourd'hui. Bah parce qu'ils sont trop dans la mode et comprennent pas assez que, par exemple, si tu t'écoutes trop parler ou que tu vas trop dans un angle, c'est toujours le même, mais forcément que j'en s'en fiche. Donc, comment est-ce que tu peux te mettre vraiment au service de la personne et pas au service de ta propre cause? Moi, je suis là pour transmettre de l'information, pour la comprendre et pour la transmettre. Je suis pas là pour trop donner mon avis ou je ne sais quoi.
Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, en fait, ça dépend vraiment de l'audience cible, effectivement. Dans ton cas, c'est sûr. Mais ça peut être, dans certains cas, pour certains podcasteurs, des gens qui viennent chercher ce truc-là, tu vois. Et dans ce cas-là, tu leur apportes de la valeur parce que tu joues la carte qu'ils ont envie d'entendre, tu vois. Et pour certains types de podcasts, ça peut être le cas.
Oui. Moi, je dis pas que ça marche pas. Hein. Je dis que c'est pas moi ce qui m'intéresse et c'est pas ce qui me plaît. Donc forcément, c'est pas ce que je vais faire.
Alors, restons sur la rétention. Parce que c'est bien sûr le plus gros levier de croissance sur la plupart des business, enfin de tous les business, et en particulier sur le podcast, ça l'est encore plus. Et l'élément central de rétention, c'est créer des habitudes, tu l'as dit tout à l'heure, et donc une certaine régularité. Tu publies toutes les semaines à la même heure. C'est vraiment, moi, mon plus gros problème. Hein. Je ne le fais pas. Et je pense que ça m'est très préjudiciable. Et je sais que toi, tu as déjà fait le test d'être moins rigoureux. Mm-hmm. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça t'avait donné en termes de chiffres. Qu'est-ce que tu avais pu voir comme conséquence?
Très simple. Faut vraiment se rendre compte que faire un podcast, un format, c'est créer un rendez-vous. Créer un rendez-vous, donc c'est forcément au minimum toutes les semaines de mon point de vue, ça peut être tous les jours, mais il faut créer un rendez-vous récurrent, pour créer une habitude. Et c'est tellement dur de créer une habitude que ça serait bête de la casser. Et donc nous, dès le début, moi je me suis dit que c'est une fois toutes les semaines, parce que je ne peux pas faire une fois tous les jours, c'est hors de question. Une fois toutes les semaines, ça me paraît pas mal. Et puis c'est un peu la fréquence de sortie ou de publication de tous les podcasts américains, tous les podcasts que j'ai pu voir passer. Je me suis dit, toutes les semaines, c'est bien. Est arrivé un moment où, avec mon associé, on s'est dit, on va aller plus loin, on va créer un cours 100% digital en e-learning sur la même chose, donc sur les nouvelles méthodes marketing. Comment est-ce qu'on crée du growth, sa stratégie growth pour son entreprise? Là, on n'était que deux, ça a pris un temps fou, et donc j'ai dû réduire la fréquence de sortie pour en faire plus que un toutes les 2 semaines. On pourrait croire que c'est rien. Première chose qui est arrivée, plein d'emails. Donc par plein, j'entends des dizaines d'emails. Des dizaines d'emails pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que l'épisode n'était pas sorti, est-ce que vous avez un problème? Waouh. Là, tu te dis, oula, je suis en train de merder grave. Deuxième chose, taux d'engagement. Et là, pour le coup, on le voit, qui s'écroule, qui est divisé presque par deux. Donc, moins 40% d'écoute la fois d'après.
Ok.
Et là, moi, je commence à paniquer. Je me dis, là, c'est quand même deux signaux très forts. Hein. C'est pas des signaux faibles, c'est des signaux très forts. Je panique, je me dis, qu'est-ce qui se passe, les gars? Donc là, j'envoie moi un email à toute la mailing list, toute la base d'emails. Et les gars, je me rends compte que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, les réponses qui sont revenues, c'était encore plus extraordinaire. C'est, ah oui, c'est vrai, désolé, j'avais oublié, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, je viens de passer un an à leur créer une habitude. Ils sont là tout le temps. Et là, je suis en train de leur casser leur habitude. Et elle est en train de me dire texto. Il est en train de me dire texto. En fait, j'avais oublié. C'est inexcusable.
Ouais, je t'ai zappé, mec.
Et c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Donc là, plus jamais. Et on n'a plus jamais manqué une semaine. Et moi, j'y crois beaucoup de ne pas manquer une semaine. Et même quand on n'a pas de stock de contenu, et ce qui arrive, ce qui nous arrive, bah, c'est pas grave. Parfois, on peut juste faire des rediffusions, par exemple. Mais il faut absolument garder.
Eh ben, c'était ma question d'après. Alors, les rediffusions, justement. Est-ce que... Parce que moi, quand je vois un truc et que je vois que c'est une rediffusion, bah, je ronchonne, je bougonne, tu vois.
Ah oui.
Et je me dis, est-ce que c'est pas déceptif pour les auditeurs, une rediffusion? Mais visiblement, si tu le fais, c'est que ça doit quand même faire le taf. C'est-à-dire qu'au pire, les gens, ils l'écoutent pas, mais au moins, tu les as pas perdus pour la fois d'après, c'est ça?
Même réponse que tout à l'heure, il faut regarder ce que font les médias professionnels, les médias business.
Ouais.
BFM Business, Bsmart, ils s'embêtent pas quand il n'y a pas la force de frappe pour créer du contenu, notamment pendant les périodes de Noël, les périodes de vacances, c'est que de la rediff. Est-ce que c'est écrit? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que comme tu dis, sinon tu es en train de casser de facto ton taux d'engagement, ton taux d'envie, de désirabilité de ton contenu. Alors qu'il y a plein de gens qui sont abonnés, il y a plein de gens qui n'ont jamais écouté ce podcast, ce contenu.
Ouais.
Donc en fait, aujourd'hui, il faut juste être, à mon sens, entre les deux. Il faut être un petit peu, comment dire, naughty, c'est-à-dire pas trop le dire, mais en même temps pas mentir.
Ok.
Mais... pas trop le dire, parce que je sais que pareil, ça apporte beaucoup de valeur aux gens. Et que si je te ressors un épisode d'il y a un an qui était hyper cool, il y a très forte chance pour que 80% des gens qui soient ici, aujourd'hui, maintenant à l'écouter, ne l'aient jamais entendu.
Ok. Problème avec cette fréquence élevée, c'est la capacité à trouver des gens intéressants aussi régulièrement. C'est-à-dire que toi-même, tu as pu le remarquer, tu as un besoin donc, d'inviter, donc tu invites des gens. Comment tu fais, du coup, quand finalement ben, l'invité que t'as, il est moins, beaucoup moins intéressant que celui de la fois d'avant? Est-ce que c'est pas un risque d'écorner un peu ta marque, tu vois? Justement, parce que t'avais un truc qui était 10 fois mieux que la concurrence, et là, d'un coup, il t'a fait descendre à x2, tu vois? Est-ce que dans ce cas-là...
Non, ça arrive.
Ouais, ça arrive, mais dans ce cas-là, tu le publies quand même? Ou est-ce que tu, des fois, t'as dit, bon, je préfère mettre une rediff? Comment tu fais dans ce cas-là?
Non, on a toujours tout publié. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi, je ne sais pas tout. Et personne ne sait tout. C'est-à-dire pour moi, et ça arrive tellement souvent pour moi que je ne sois pas hyper satisfait parce que j'ai des attentes très élevées et je suis assez exigeant sur ce que je recherche. Et en fait, je le sors. Et là, je vois qu'en fait, les auditeurs adorent.
Okay.
Donc en fait, par définition, si j'ai tort et que finalement, j'en sais rien de ce qu'il y a de bien ou pas bien, bah, vaut mieux tout sortir. Donc en fait, je ne sais juste pas. Même quand je suis parfois un peu déçu de l'échange, très souvent, c'est plutôt bien pris. Et même, je pense que les gens qui suivent très souvent, ça leur fait du bien que parfois, soit peut-être, le niveau soit un peu moins élevé, peut-être,
oui,
moins technique.
D'accord.
Donc en fait, finalement, ça crée un équilibre dans tout ça. Et au pire du pire, c'est pas très grave. Si les gens, t'as une vraie marque et que les auditeurs aiment ce que tu fais, ce que t'apportes, ils t'excuseront, hein. Ça arrive, c'est pas grave.
Dernier moyen de rétention, c'est de la rétention externe. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la théorie des cercles. Et pour le coup, un podcast nu, sans rien d'autre, c'est un peu ne pas utiliser les leviers disponibles. Et en premier lieu, avoir une newsletter qui au moins prévient de la sortie des podcasts. Et pendant le podcast, mettre des call to action pour inciter les gens à s'inscrire à la newsletter, c'est un peu indispensable, non? C'est ça?
Oui. Moi, je crois beaucoup à, donc, comme on l'a dit, hein, la newsletter pour inciter les gens à se rappeler. Et encore une fois, plus créer cette habitude, vraiment faire en sorte que ça s'imprègne et que ça se cristallise dans la vie de chaque auditeur. Ensuite, c'est les notifications des différentes plateformes. Spotify, je ne sais pas s'ils le font, mais je sais que Apple Podcast le fait. Ting, nouveau épisode de Growthmakers. Ça fonctionne.
Justement, moi, les épisodes que je suis, il y a des fois, quand j'arrête de les écouter pendant trop longtemps, Apple Podcast ne me prévient plus.
Mais ça ne me paraîtrait pas déconnant. Qu'en fait, bon, il est moins intéressé, donc on va arrêter de le saouler avec des notifications. Ça me paraît même plutôt logique. Mais donc, de mon point de vue, tu as quand même ces notifications-là. Et last but not least, il y a quand même, et le plus important, c'est tout ce qui est naturel et que tu ne contrôles pas. Moi, je sais qu'un gros canal de référol, c'est les Slack.
Alors là, du coup, t'es passé sur le référol. J'étais encore sur la rétention, sur la newsletter, sur les habitudes, sur justement, ils sont au courant parce qu'il y a la newsletter, tout ça. Mais oui, de toute façon, c'est l'étape d'après. C'est le référol, donc il n'y a pas de problème. Donc, parlons de référol. Donc, pousser au bouche-oreille, ça se fait naturellement, puisque tu dis qu'il y a des gros trafics qui débarquent de Slack parce que les gens se le partagent sur des trucs d'entreprise. Mm-hmm. Mais ça, tu ne le maîtrises pas vraiment. Ça, c'est l'output. À la limite, l'input que tu peux mettre là-dedans, ça va être le dire dans l'épisode.
Exactement.
Le dire, partagez-le. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, envoyez-le. Mais là, comment tu peux même dans la newsletter, tu peux créer un petit bouton avec un truc forward ou un truc comme ça.
Exactement. Il n'y a pas mille choses à faire. Comme dit, on ne contrôle pas grand-chose. Le référol, par définition, c'est comment est-ce que je vais réussir à accélérer un mouvement qui est naturel. Mmh. Et les mouvements naturels, il y en a plein qu'on ne contrôle pas, notamment le fait d'aller republier dans un Slack. On avait à un moment donné sur le site, par exemple, un bouton qui facilitait le partage sur Slack.
Ouais.
Bon, il n'était pas tellement utilisé, parce que peut-être que ça demandait trop de clics. Donc, on essaye d'accélérer ce qu'on peut. En vérité, je pense que les gens font un peu ce qu'ils veulent, ils prennent le lien et le partagent. Donc, avoir le lien peut-être plus facile, comme tu viens de dire, faciliter le forward, donc la transmission de la newsletter, ça oui. Ensuite, quand on a fait un peu ces bonnes pratiques et checker ces trois bonnes pratiques et grandes choses à faire, après, là-dessus, c'est déjà pas mal.
Dernière étape du framework art, le revenu. Gros sujet, la monétisation d'un podcast.
Gros sujet.
Ouais. Et ça intéresse beaucoup de monde, je pense. Bien sûr, quand c'est pas accolé à un business, c'est-à-dire que dans pas mal de cas, on va avoir donc des gens qui vont faire de la théorie du cercle et qui vont avoir une activité monétisable et que le podcast va se placer à côté. Donc ce sera pas le podcast en soi qui sera monétisable. Mais toi, tu fais les deux. C'est-à-dire que tu fais le podcast comme appui à une activité commerciale et le podcast comme brique monétisable par lui-même. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous débroussailler un peu tout ça? Parce que je pense qu'il y a pas mal de créateurs de podcasts ou de gens qui se disent « Tiens, ça pourrait m'intéresser de monétiser un podcast », mais c'est très, très variable parce que déjà, si j'ai bien compris, j'ai vu une plaquette de je sais plus qui, quel podcast, qui faisait une présentation de son podcast et qui disait « Voilà, on fait ci, on fait ça, on a combien, on a tant d'écoutes » et ils proposaient sur leur plaquette un coût par mille. Ils disaient « Voilà,
Ça va être Mathieu Stéphanie, j'imagine. Génération Do It Yourself.
Ouais,
ça,
parce que c'est une plaquette qui est publique, c'est pour ça? Non, je sais pas où je l'ai vu.
Ouais, il avait pas mal partagé.
Et pour le coup, c'était un truc genre entre 50 et 100 euros pour un coup par mille, si je me rappelle bien.
Oui.
On comprend quand on voit cette plaquette, qu'en fait, Mathieu Stéphanie, il fait de la prospection. En fait, il n'est pas à attendre qu'on vienne le voir en lui disant « Tiens, tu veux pas qu'on sponsorise ton podcast ?» Donc ça veut dire que ça part d'une démarche active. Est-ce que déjà, tu peux nous dire si les coûts par mille sont équivalents? Parce que Mathieu Stéphanie, c'est quand même pas une niche, c'est un truc quand même assez inspirationnel. Ça va un peu plus loin que juste les marketeurs. J'ai l'impression que ça touche des trucs beaucoup plus larges. Donc au niveau des coûts par mille, au niveau de la prospection, est-ce que tu peux nous débroussailler un peu tout ça?
Oui. Alors, comme tu disais, entre 50 et 100 euros le coût par mille, moi, je suis beaucoup, beaucoup plus cher. Nous, on fait des choses un peu moins sexy. On parle de business, réellement. On fait un peu ce qu'on pourrait appeler du B2B. Donc, c'est un peu moins sexy. C'est un peu moins inspirant. On va pas se mentir. En revanche, les gens qui écoutent...
Les paniers sont bien plus élevés.
Exactement. En revanche, c'est des décisionnaires business qui ont des réels challenges business et donc qui ont des paniers moyens et des budgets bien plus élevés.
Okay.
Moralité, si je fais un podcast féministe sur je ne sais pas quoi, en fait, on va pouvoir attirer une énorme audience. Ok, trop cool. Comment est-ce que je monétise ça? un peu comme toutes les influenceurs ou les influenceuses sur Instagram. Très mal. Finalement, je vois beaucoup de gens, mais on va me dire, bon, bah, moi, je veux bien te mettre jusqu'à 30 ou 40 euros du coup par mille, grand maximum, parce que j'ai envie de vendre un truc, que sais-je, pour, à ton audience. Et on sait que l'audience, très souvent, bon, bah, ça va être juste des gens qui s'inspirent et qui vont pas, ils sont en B2C, donc ils sont pour eux-mêmes. Ils n'ont pas des budgets. Si tu leur proposes un truc à 1500 euros, ils vont te dire « qu'est-ce que tu me racontes ?» De l'autre côté, nous, on est vraiment de l'autre côté du spectre, beaucoup moins inspirant, beaucoup moins dans l'air du temps et sexy, en revanche, qui apporte une valeur business énorme. Donc, en fait, assez simplement, tu l'as dit, les paniers moyens sont beaucoup plus élevés, l'autorité et le fait que ce soit des décisionnaires, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, on va pouvoir aller chercher des sponsors qui, eux, sont capables de mettre beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on n'est même pas au coup par mille, ce serait un petit peu délirant de t'en parler. C'est surtout de se dire comment est-ce que moi, dans ma démarche éditoriale professionnelle, je peux aligner aussi un sponsor qui va avoir les mêmes enjeux que moi, qui a besoin des mêmes cibles que mon audience, et qui donc, on va pouvoir en fait tout, aligner tout ça et beaucoup mieux pricer.
Ok, donc tu leur fais un forfait.
Alors moi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne ? On a tout essayé, j'allais dire, en vrai il n'y a pas de magie, il faut tout essayer, hein. Faut tout tester tout le temps, on est encore en train de tester. Là on vient de re-signer avec Salesforce, notre partenaire 2021, on a fait un truc différent de 2020, qui était un truc différent de 2019, et pareil pour tous les sponsors qu'on a déjà eus. Je pense qu'il faut faire attention, parce que tout ce que je vais raconter, ça s'applique à nous, et on est vraiment un peu l'intrus... Exactement, on est vraiment presque les seuls à le faire, donc on est l'intrus dans le général. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir une démarche très sales, très B2B. C'est-à-dire qu'on va avoir une démarche de sales consultatif, c'est des cycles de vente assez longs, c'est des paniers moyens très élevés. Donc on discute qu'à partir du moment où on commence à parler de 20 ou 30 000 euros au niveau du deal. Donc tu vois, c'est très élevé, et donc on va aller pousser... le sponsoring beaucoup plus loin. Nous, on ne vend pas de coup par mille parce qu'on passe, par définition, on trouve que la pub, ça ne sert à rien. Ce qui va servir, c'est de créer un dispositif complet qui va permettre à mon sponsor d'avoir du ROI. Comment est-ce que je peux réussir à créer, en fait...
Pour qu'il puisse pour qu'il puisse le traquer et qu'il voit son ROI ?
Pour qu'il voit, mais qu'il en ait aussi réellement. Donc, je m'explique concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le dispositif, il va avoir plusieurs étapes. Un, bah bien sûr, c'est de la pub. Salesforce, il a envie de rester top of mind. Donc forcément, on va faire de la pub ensemble. Le deuxième, c'est de se dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur ? Comment est-ce que je peux t'aider à faire plus de business grâce à mon audience sans aller les convaincre d'un truc où moi, en fait, je ne suis pas d'accord. Donc sans aller vendre un truc que moi, je ne suis pas d'accord. C'est de faire de la pub, la première chose. La deuxième, ça va être pourquoi pas de pousser du contenu qu'ils font sur la newsletter pour aller créer des leads pour eux.
Okay.
Donc ça... C'est du business directement et c'est traquable. La troisième, et ça, c'est vraiment beaucoup plus B2B, c'est de dire, bon les gars, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, je sais que vous avez des personnes dans votre pipe qui pourraient être intéressantes pour mon podcast, donc votre pipe commercial. Vous les avez en prospect et vous voulez les closer. Et l'audience, ça les intéressera aussi. Donc là, il y a un truc à faire. Donc, assez simplement, ils peuvent nous envoyer une fois ou deux des leads prospects assez chauds qui sont dans leur pipe, que nous, on interview. Et ensuite, eux, c'est plus facile à closer. Et ça, on le sait.
Mmh.
Donc, on sait qu'en fait, là, on va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires commercial.
Ok.
En gros, c'est de l'account-based marketing façon podcast.
Ok, d'accord. Bah, j'avais pas pensé à ça.
C'est-à-dire qu'eux, ils targetent simplement. Ils vont targeter... c'est faux. Hein, donc, je donne juste un exemple. S'ils targetent Conto et que ça fait 3 mois qu'ils discutent avec, dire, tiens, ça serait peut-être bien de les passer sur le podcast où il y a Salesforce. Ok, mais c'est tout. Je ne fais même pas d'entremettage ou de mise en relation, c'est juste ok. Et eux, vu qu'ils l'ont dans leur pipe, ça va me dire tiens, il y a eux, il y a GrowthMakers qui sont en train de faire un podcast, ils seraient intéressés par ta voix, est-ce que ça t'intéresse ? Et c'est eux en fait qui mettent directement. Donc ils donnent de la valeur à leurs prospects, nous on en a, l'audience en a, tout le monde est content à la fin. Donc tu vois, il y a plusieurs choses qui sont différentes.
En fait, c'est le même principe que la monétisation classique qui consisterait à inviter quelqu'un contre de l'argent. Sauf que ça se fait dans un cercle vertueux à 3 bandes et pour le coup dans un truc où tout le monde est gagnant quoi, y compris les auditeurs quoi.
Exactement.
Ok, très bien. Je vois tout à fait de quoi il est question.
Donc voilà, mais nous c'est vraiment très particulier. Hein. C'est très particulier parce que on veut pas faire au coup par mille parce que si on reboucle, on se rappelle du nombre qu'on fait. On fait 100 000 écoutes par mois. C'est que dalle. C'est que dalle si on veut. Enfin, moi, je suis pas là pour gagner des cacahuètes. Ça veut dire qu'à 80 ou à 60 euros du coup par mille, à la fin du mois, j'ai 1500 balles. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Vu la valeur de mon audience.
Comment tu peux faire pour savoir s'il y a vraiment ROI ou pas sur la partie triangulaire là?
Eh ben, tu discutes. Tu gardes la conversation avec Salesforce. On est avec une personne qui est hyper investie dans le projet et qu'on aime beaucoup. Et en fait, on discute, on co-construit ensemble les saisons et on se dit voilà, qu'est-ce qui pourra avoir plus de ROI pour vous? Comment est-ce qu'on s'entraide en fait? C'est pour ça que je pense que c'est vraiment du B2B. C'est en fait, à un moment donné, si ça marche plus, ils nous le diront.
Ok. En gros, c'est un échange de bons procédés entre non pas juste un seul podcast et un partenaire, mais un podcast et un petit peu de cerveau et d'autres éléments comme les autres éléments de la théorie du cercle, donc des newsletters, des machins et même des méthodes.
C'est ça, c'est un réel dispositif.
On met tout ça en branle pour que tout le monde se gagne. Quoi.
Exactement. Okay. C'est beaucoup plus loin que. On va vraiment beaucoup plus loin.
Est-ce que tu connais d'autres moyens de monétiser pour les autres secteurs? Est-ce que tu es au courant d'autres méthodes?
Ah ouais, il y en a plein, nous on s'est planté. Si on en est arrivé là, c'est parce que ça fait quand même, comme tu as dit, 4 ans qu'on le fait, et on s'est planté sur tout le reste avant. Et on s'est planté vraiment bien, genre big time. On a testé Patreon, donc le fait d'avoir, le fait de se faire tipser par des gens qui disent « Ok, ça a de la valeur pour moi », on l'a testé, on s'est lamentablement ramassé. La raison, pareil, il faut toujours essayer d'aller demander aux gens pourquoi ils le font pas. Oui, parce que pour être très honnête, on l'a fait, on l'a lancé, au bout d'un mois, on avait 27 euros, franchis-toi bien, 27 euros, et je me suis dit, c'est pas possible, genre, c'est même la honte, faut qu'on kill tout de suite ça, c'est trop la honte. Et je suis allé quand même demander, ben, les gars, ça vous apporte aussi peu de valeur que ça? Et la réponse, ben, elle reste d'une évidence à toute épreuve, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que toi, ton job, c'est de nous expliquer toutes les semaines comment une boîte fait x3, x4, x5, et tu viens là faire la manche avec tes 2 balles par mois. Je caricature, hein, mais en gros, c'est ça. Tu viens faire la manche pour tes 2 balles par mois alors que t'expliques comment faire des énormes boîtes ou faire des trucs ambitieux.
Okay.
Réveille-toi. Et donc bah oui, on s'est réveillé et en fait, on a testé plein d'autres choses. J'ai testé une offre de coaching. On s'est aussi ramassé parce que je pense que c'était pas assez, c'était pas assez bien structuré. Donc en fait, on a testé vraiment 1000 trucs, on s'est à peu près ramassé sur tout, et parfois il y a un truc qui marche, mais quand ça marche, c'est énorme.
Ok, très bien.
Et donc on est arrivé avec vraiment, c'est un sales process, nous, ça met du temps, hein. Là ce que je te raconte avec Salesforce,
bah, je me doute.
Ou avec des HubSpot, etc., c'est quand même des sales process, voilà, il faut y aller, il faut réfléchir, enfin, c'est un vrai travail de commercial.
Ouais, je vois. Quel podcast t'a le plus impressionné en termes de développement ces derniers temps ou même historique?
L'interview, bah moi j'ai toujours été un grand fan de Nouvelle École. J'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup parce qu'on est un peu de la même, on a le même âge, on est de la même génération, on vient du même groupe de potes et nos personnalités se ressemblent à certains endroits, donc forcément on match un peu. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, bah Mathieu Stéphanie, son podcast extraordinaire, j'aime beaucoup sa façon de répliquer. J'aime beaucoup comment il emmène son audience avec lui dans ses podcasts qui durent plus de 2 heures, parfois 3 heures. C'est complètement absurde, les gens écoutent jusqu'au bout. Et en vrai, c'est à peu près tout.
Comment tu continues à te tenir au courant, à te former sur le growth marketing? C'est quoi tes références, on va dire, que ce soit tout média confondu?
Là, je pense que la réponse, elle est assez simple. Hein. J'ai la chance de rencontrer les meilleurs talents mondiaux et français en growth toutes les semaines, donc j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin.
Ok, très bien, ça te fait gagner du temps. Est-ce qu'il y a potentiellement un film, un livre, une personnalité qui t'ont inspiré et qui t'ont fait un peu changer la perception des stratégies de marketing et de communication?
C'est une bonne question, ça. Je pense que le growth, on l'oublie un peu trop souvent, mais c'est très très proche de la stratégie d'entreprise. En fait, pour moi, c'est un peu la nouvelle façon de faire de la strat d'entreprise. Là où les anciens diraient, on fait de la stratégie, on développe une entreprise, nous, on fait du growth. Et à ne pas confondre avec du growth hacking, qui est vraiment de la méthode d'acquisition. C'est pas la même chose. Du growth, c'est de la nouvelle stratégie d'entreprise. Et qui dit stratégie d'entreprise dit forcément comment est-ce qu'on mesure le succès et quelle est l'ambition de base de cette entreprise. Donc moi, un livre qui m'a pas mal marqué, c'est Small Giants. Je ne sais plus c'est écrit par qui parle en fait de ces entreprises qui font le choix de rester un peu plus petites et de ne pas scaler comme des gros bourrins.
Ouais.
Donc ça m'a pas mal inspiré.
Je peux enchaîner avec une question parce que ce que tu dis sur ta vision du growth est vachement intéressante parce que effectivement, moi je suis assez d'accord. il se trouve que je pense que c'est pas juste un sujet de croissance, c'est un sujet d'organisation d'entreprise. Et alors, ce qu'on voit souvent dans les boîtes, c'est qu'on voit des départements assez segmentés. On a le produit, les sales, le marketing, tu vois. Et il peut y avoir des fois des guerres internes, de la politique interne, tu vois, qui fait que quelqu'un va demander une landing page et c'est le produit qui doit le faire et ils mettent 2 semaines, enfin, des conneries comme ça, tu vois. Et en fait, après, il y a l'équipe growth et bien souvent, dans les boîtes les plus matures sur cette thématique en France, on va dire, genre Spendesk par exemple, l'équipe growth va arriver en support et va venir se placer à différents endroits sur le customer success, sur ceci, sur cela, et va venir un peu aider pour optimiser la machine. Alors que moi, je vois le growth justement comme une stratégie d'entreprise qui devrait se placer au-dessus de tous ces départements-là. Et en fait, dans mon idéal d'entreprise, et du coup, ça va vachement m'intéresser ce que tu vas me répondre, parce que tu as eu la vision insider de pas mal de boîtes B2B qui ont des départements comme ça, est-ce que ce ne serait pas envisageable d'avoir une structure avec growth au-dessus et tous les départements qui reportent, et c'est le growth qui fait la stratégie et qui va dire où il faut aller optimiser et qui envoie du coup éventuellement des supports à différents endroits.
Je pense pas que ça puisse être mis au-dessus d'une entreprise B2B. Dans des boîtes B2B, ce qui gère les boîtes, c'est les sales. Sans les sales, il n'y a pas de boîte.
Okay.
Alors que sans les marketeurs, il y a une boîte. Là où, dans des boîtes plus product, plus B2C, on va dire où il y a plus de volume, là, c'est un petit peu différent. Parce que ce qui fait la boîte, c'est le marketing. Donc, si on prend Uber, par exemple, pour reprendre ce que disait Jonathan, c'est que l'équipe produit a peu à peu changé pour se mettre presque en dessous de l'équipe growth. Alors qu'il y avait aussi une équipe growth. Et l'équipe growth est passée de 0 à 400 personnes en même pas un an. Et en gros, ça ne veut pas dire qu'ils ont mis l'équipe en dessous. Ça veut dire qu'ils ont surtout changé l'état d'esprit de l'équipe product pour leur mettre un état d'esprit beaucoup plus growth. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'impact pour le business, si on ne peut pas mesurer si machin, ces trucs, on ne fait pas.
Oui, mais alors, tu vois, c'est toujours les mêmes trucs. C'est qu'est-ce que tu reportes comme métrique. Et plus tu as la vision transverse et plus tu fais des choses cohérentes. C'est-à-dire que si moi, je suis payé sur la génération de leads, du coup, je peux très bien, si j'ai pas la métrique la plus en amont dans le truc, je peux très bien faire grossir un chiffre qui va pas se transformer en revenu in fine, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, avec la vision transverse, si tu te places au-dessus, du coup, tu évites ce genre de problème et tu alignes tout le monde et tout le monde est au courant qu'un canal d'acquisition, ça se teste sur toutes les étapes du produit, tu vois.
Et ce qui se passe très, très naturellement et de plus en plus dans les scale-up, c'est que en fait, tu as un sales, souvent le sales leader ou le head of sales du début.
Ouais.
S'il est assez bon et qu'il a ce mindset growth qui va devenir CRO, donc Chief Revenue Officer, et qui va donc en fait prendre cette vision transverse. Mais le head of growth restera très souvent head of growth.
Ok, d'accord. Donc en fait, c'est juste une question de nomenclature. C'est-à-dire qu'en fait, et comme tu disais tout à l'heure, les sales, ils peuvent très bien faire une boîte à eux tout seuls, mais ils font une boîte à eux tout seuls parce que dans leur tête, ils font le marketing, ils font tout en fait. Ils savent à qui ils s'adressent, qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment, par rapport à l'audience, et c'est pour ça qu'ils peuvent être autonomes. Mmh. Et du coup, ça part de eux, et le mec devient CRO. Et CRO, finalement, c'est l'équivalent de ce que je dis, c'est un mec qui a la vision transverse en fait. Donc, ok, d'accord.
Exactement. Et par exemple, chez Spendesk, Jérémy, qui est donc le head of growth de historique, est resté head of growth. Il a construit sa team, il a fait beaucoup, beaucoup grossir sa team. Et maintenant, il est passé head of growth / country manager. Et il avait fait pas mal de product à un moment donné. Genre, lui, c'était son truc. Et très souvent, on se rend compte que le growth est très proche du product. Là où, de l'autre côté, Nicolas, qui est l'ancien head of sales de Spendesk, est passé CRO, donc Chief Revenue Officer. Chez Miro, dont tu as parlé tout à l'heure, cette boîte de photographie, Faisal, qui est passé sur le podcast, qui est le VP sales à la base, j'ai vu qu'il était passé il y a pas un an, Chief Revenue Officer. Mais c'est à peu près la même chose, c'est juste que c'est un état d'esprit. Et que le B2B, c'est plus sales.
En fait, ça dépend de la culture d'entreprise, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire que si c'est parti de sales, si c'est les produits qui mènent la danse, du coup, ça va partir d'eux. En fait, c'est eux qui vont accaparer le sujet growth, en fait.
Exactement. Et dans une boîte comme Facebook, c'est sûr que c'est plus les products et les marketeurs qui ont le dernier mot.
Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
D'être venu pour répondre à toutes mes questions sur le podcast et plus. Est-ce que tu as des petites annonces à passer? Est-ce que tu as prévu de faire des choses? Est-ce qu'il y a une formation qui sort bientôt?
Merci à toi, déjà. Oui, il y en a plein de choses qui arrivent. en ce moment. Donc, on a très peu parlé, mais c'est vrai que nous, le gros sujet, c'est de former un maximum de talents dans les entreprises sur tous ces nouveaux sujets, ces nouvelles notions de marketing, commercial, management. Et donc, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2020, on est passé de une à quatre formations, quatre promotions de différents. Donc, une sur du growth, une sur de l'outbound, donc la prospection digitale, une sur du sales et une sur de l'acquisition approfondie. Et en fait, tout notre game, c'est de se dire comment est-ce qu'on continue à avoir plus de track pour mieux aider les gens. Donc, il y a un appel, si tu as des podcasters dans ta communauté ou d'autres marketeurs qui veulent construire des tracks avec nous, pour nos élèves et tous les participants qui nous suivent, et ben, c'est avec grand plaisir.
Ok, très bien. Le message est passé. Et ben, merci beaucoup, Gabriel. Bonne chance pour la suite et à très bientôt.
Ciao.
Salut.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service. Ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt. Ciao.